Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Mardi 18 septembre, Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de sa réforme du système de santé. 54 mesures ont été annoncées. Parmi celles-ci, une des plus retentissantes est la fin du numerus clausus des médecins, c'est-à-dire la fin de la limitation a priori du nombre d'admis en deuxième année de fac de médecine. La ministre de la Santé a toutefois reconnu que cette mesure ne résoudrait pas tout de suite la question des déserts médicaux. Il s'agit surtout, a-t-elle dit, d'éviter de traumatiser les étudiants avec une sélection absurde et de diversifier les profils des médecins. Pas beaucoup plus de moyens donc, ni forcément de médecins. En attendant, d'après un rapport du service de statistique du ministère de la Santé fin 2015, 6% de la population française, soit 4 millions de personnes quand même, habitent à plus de 30 minutes d'un SMUR, une structure mobile d'urgence et de réanimation, ou d'un hôpital qui dispose d'un service d'urgence. Et le chiffre monte à 46% dans ce qu'on appelle les zones rurales éloignées. Alors du coup, à Tannes, dans le Haut-Rhin par exemple, en 2016, un service d'urgence entier a dû fermer par manque de médecins et de moyens pour payer des intérimaires trop chers. Tandis qu'à Dreux, en février 2017, 11 des 15 médecins urgentistes ont donné leur démission collectivement pour protester contre le manque de moyens. Heureusement, deux bonnes nouvelles. En vrac, le 31 mai 2017, Agnès Buzyn, qui est donc la ministre de la Santé, a exprimé toute son admiration aux médecins urgentistes qui étaient rassemblés en congrès à Paris, porte-maillot, et à Villeneuve-les-Avignon. Il existe une unité psychiatrique qui est spécialement dédiée aux soignants en burn-out. Tout de suite, on les écoute justement, ces soignants spécialistes des urgences, les urgentistes, raconter quelques histoires comme dans Urgence, sauf qu'ici, ce sont de vrais patients et de vrais médecins, dont le plus fameux ouvre ses récits racontés par Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Médecin urgentiste depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine et depuis 5-6 ans, je travaille au SAMU de Paris. Et je me souviens qu'une après-midi, comme ça, il y avait un monde fou en salle d'attente. Donc d'un coup, il y a toujours les infirmières qui viennent nous chercher en disant « ce malade est grave, celui-là n'est pas grave, etc. » Plus tous ces malades qui sont dans des situations un peu bizarres. Et l'infirmière d'accueil les voit arriver. Et elle voit rentrer un homme d'une trentaine d'années en tenue de travail. Et cet homme tenait dans ses bras une statue qui devait faire un bon mètre, hein, une belle hauteur de statue. Et donc l'infirmière lui demande qu'est-ce que c'est. Il dit j'ai mes mains qui sont bloquées dans la statue. Parce qu'en fait, c'était un marbrier de monument funéraire. Et en fait, il découvrait la résine, une sorte de résine. Et donc, il ne savait pas encore la travailler. Donc, il avait mis ses deux mains dans la statue pour la modeler, évidemment. Et il était resté bloqué dans la statue. La statue était très moche. C'est une espèce de femme qui était à moitié assise, avec un visage qui était mal fait. Enfin bon... Donc je l'ai pris en charge. Il se posait des questions pour savoir si ses mains qu'allaient devenir ses mains, quoi. Donc une certaine angoisse. Alors c'était assez drôle parce que lui, il voulait pas qu'on détruise entièrement la statue. Donc on a fait attention. On a pris pour ça la scie qui permet de défaire les résines qu'on utilise pour faire les bottes plâtrées, les contentions de membres. On a fait des fenêtres, c'est-à-dire on a découpé un carré à hauteur de là où il y avait les mains pour sortir les mains. En conservant son monument funéraire. D'urgence, les gens, c'est comme quand ils sont blessés, ils veulent pas trop qu'on défasse leurs vêtements ou qu'on les déchire, et des fois on peut pas faire autrement. Mais il est reparti avec sa statue. Il tenait, et il y tenait, il est reparti avec sa statue. Et après tout, c'était à lui.
Je m'appelle Mathieu Hédé, j'ai 34 ans, et je suis médecin urgentiste depuis 2013. Alors c'était il y a 3 ou 4 ans maintenant déjà. C'était au tout début en fait, quasiment au tout début de ma carrière de smuriste, d'urgentiste de SAMU Smur. On a été bipé pour fusillade dans une des villes du coin. Donc j'y crois presque pas en fait quand sur le bip il y a marqué fusillade. Je me dis que c'est pas possible, que ça peut pas m'arriver aussitôt. Mais c'est le boulot, donc je suis monté dans l'ambulance et évidemment pendant le trajet, le SAMU nous a tenu informés de l'état d'avancement de la scène. Puisque quand on part, on nous dit fusillade toujours en cours. Donc évidemment on est un petit peu crispé et je me dis qu'il va falloir surtout rester en sécurité. Donc on était excités et puis évidemment un peu terrorisés. On a pris des risques évidemment puisqu'on roule très vite, on se faufile entre la circulation, on grille les feux, les lignes blanches, etc. etc. Alors quand j'arrive sur les lieux avec l'équipe, ce qui frappe, c'est l'agitation ambiante, c'est-à-dire qu'on s'est garé à une centaine de mètres derrière un bâtiment pour être en sécurité. Il y a deux voitures de police qui barrent la route d'accès à l'endroit où se situe la fusillade. Et en fait, je ne comprends pas ce que je vois. Je vois des gens courir partout, des gens crier, hurler, la police faire des grands signes. Et je vois un policier qui est accroupi derrière sa voiture pour se protéger. C'est assez surréaliste comme situation. On arrive sur une zone de guerre quelque part, hein. C'était dans une cité défavorisée, donc avec des barres d'immeubles de chaque côté de la rue, en pleine journée, un midi, à peu près, ouais, vers midi, quelque chose comme ça. Bon. Et je suis allé immédiatement voir le policier accroupi dans sa voiture, et je lui ai dit, c'est sécurisé ou pas les lieux? Il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, je ne sais pas. Bah, donc on n'a pas avancé, et on s'est dit, encore une fois, on va pas avancer. Et finalement, c'est un pompier qui est venu nous chercher en courant, en disant « les tireurs sont partis, ils viennent de partir, vous pouvez venir ». Donc on avance dans cette rue, on passe les voitures de police qui font le barrage, et on s'approche d'un bar en fait, qui fait l'angle d'un des immeubles. Et sur la gauche, sous les arbres, on voit des dizaines de personnes qui s'agitent autour de pompiers, qui sont eux-mêmes en train de s'agiter autour d'un patient victime des tirs, qui est extrêmement musclé, qui est extrêmement grand, extrêmement costaud, et il est par terre, et le pompier me tire presque par la manche en disant « Doc, Doc, venez, il va pas bien, il va pas bien ». Et donc je m'approche, et je rentre dans un groupe de personnes, dans un attroupement, et puis j'entends un peu tout ce qui s'est passé, j'entends des encouragements, j'entends des insultes, on me pousse, et je vois ce patient troué de partout, dans la poitrine, dans le ventre, encore en vie, un peu gris quand même, un peu mal en point. Et le pompier qui me dit, il y a encore 3 victimes dans le bar. Et donc après, avec l'infirmière anesthésiste, on pénètre dans ce bar où sont allongées les 3 autres victimes. Et quand on rentre, immédiatement sur la gauche, il y a un patient en arrêt cardiaque qui est massé par les pompiers. Il me demande, qu'est-ce qu'on en fait? Je lui dis, dans une situation de catastrophe comme ça, je lui dis, il y a d'autres victimes, il est mort, donc je passe à un autre patient. En demandant quand même mon pompier de continuer de pratiquer le massage cardiaque sur cette victime, dans l'attente d'un autre médecin qui viendra lui faire les manœuvres de réanimation. Mais moi, je suis premier médecin, il faut que j'aille trier les patients les plus graves, et il faut que j'aille demander des renforts au SAMU. Et je trouve 2 autres victimes, donc une victime avec des impacts de balles dans les jambes, et une 3e qui était cachée dans les toilettes, et qui est sidéré de la situation, qui comprend pas ce qui se passe, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Chicago ici ou quoi? Mais c'est Chicago. Et il répète en boucle, c'est Chicago, c'est Chicago, c'est Chicago. Je suis dans ce bar, avec un arrêt cardiaque, 3 blessés graves. Je suis au tout début de ma carrière, et il y a une 20aine de pompiers qui me demandent ce qu'ils doivent faire. Je suis un petit peu dépassé par les... En tout cas, intérieurement, je suis dépassé par cette situation et je me dis, il faut réfléchir, respirer un grand coup et faire ce que tu sais faire, ce qu'on t'a appris à faire, ce pourquoi tu es là. Il y a un médecin-pompier qui arrive. C'est lui qui devient chef de la coordination des secours sur place. Ce qui m'enlève un poids terrible. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir faire ce que vraiment je sais faire. C'est-à-dire aller essayer de soigner des insoignables. Avant que le médecin-pompier prenne en charge les opérations de secours, j'avais passé un bilan au SAMU en stipulant que les moyens sur place étaient inadéquats par rapport au nombre de victimes et à leur gravité. Donc en fait, j'ai appelé immédiatement pour leur dire, j'ai 4 patients graves, et donc 4 patients graves, ça veut dire, il me faut 4 équipes. Il me faut 4 équipes de réanimation. Je les ai demandés. Et au moment où je me dis, je vais prendre en charge le patient qui est en train de répéter, c'est Chicago, parce que c'était le plus grave qu'il fallait prendre en charge, il y a un pompier qui vient et qui me tire par la manche et qui me dit, toc, toc, j'en ai un autre dans le camion. On retourne dans la rue pour monter dans ce camion de feu, ce qu'on appelle un premier secours, un prompt secours, c'est un camion avec une grosse citerne en dessous. Et donc je rentre dans ce camion, extrêmement confiné, et je vois un jeune pompier, un peu blême, qui me dit « il va pas bien ». Et je baisse les yeux et je vois sur le brancard un homme qui effectivement va pas bien, qui est en train de délirer, qui a des impacts de balles dans l'abdomen et dans l'aine, qui saigne. Des blessures qui sont très graves. Il n'a plus de tension, plus de pression artérielle. En gros, il est en train de mourir de ses plaies. Et avec l'infirmière anesthésiste, on dit, bon, il va falloir le prendre en charge extrêmement rapidement et l'amener à l'hôpital où on va pouvoir l'opérer et essayer de le réparer pour le maintenir en vie. On a fait ce qu'on a pu. On vérifiait le pouls à son poignet, je le sentais quasiment plus. On l'a endormi comme on a pu, on l'a perfusé, on a eu du mal, mais on l'a fait. Et on a roulé. Le transport, il a duré un quart d'heure, c'est pas beaucoup, mais avec un patient, tu vas avoir 45 ou 50 ans, qui est en train de mourir sous vos doigts, c'est long. On est arrivé à l'hôpital. C'est une des rares fois où je suis arrivé à l'hôpital avec mon équipe et où on a couru avec le brancard, comme dans les films. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais cette fois, c'est arrivé. J'avais ma main sur son poignet pour savoir s'il était toujours vivant. C'était assez compliqué. On a couru pour aller dans la salle, ce qu'on appelle de déchocage en réanimation, où en fait les anesthésistes réanimateurs, puis les chirurgiens, prennent le malade en charge. Eux ont fait leur partie du travail, et ensuite, je voulais pas quitter la réanimation, j'ai regardé, je suis resté longtemps jusqu'à ce que le patient disparaisse, qu'on l'emporte jusqu'au bloc opératoire, et je me disais, il faut pas qu'il meure, et j'avais envie de savoir ce qu'il avait. Donc évidemment, je me suis renseigné plusieurs heures plus tard pour savoir s'il avait survécu. Et donc en fait, j'ai eu des précisions, la chirurgie s'est bien passée. Alors il a eu des séquelles évidemment, puisqu'il a eu des organes touchés, notamment la vessie. Il a eu une poche à urine, mais il était vivant. Et je suis allé le revoir plusieurs jours après dans le service de réanimation pour aller lui serrer la main. Ça m'arrive pas souvent, mais là j'y suis allé parce que je me suis dit, il est passé tellement près. Quelque part, j'étais ravi de le voir vivant, et même avec sa poche à urine, j'étais désolé pour lui, mais je me disais, quelle joie de le voir vivant. Alors j'ai su ce qui s'est passé plusieurs jours après. Et c'est aussi pour ça que ce patient m'a marqué, c'est que c'était un ouvrier qui travaillait dans un chantier à côté, qui était venu dans le bar pour manger son menu du jour, et qui s'était fait tirer dessus par une bande des quartiers environnants, venus pour régler leur compte avec les gens locaux. Il y avait dans le bar une victime de règlement de compte, sur le trottoir une victime de règlement de compte, et les trois autres victimes étaient des patients innocents qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. Quand je suis rentré dans la chambre de réanimation, ils se souvenaient pas de moi, et c'était très intense, parce que pendant plusieurs minutes, je lui ai touché l'épaule, il m'a tenu la main, il m'a dit merci, alors qu'il se souvenait pas de moi et que je l'avais pas vu autrement que pré-mourant. On s'est rencontrés vivants.
Je m'appelle Luc Breton, je suis médecin urgentiste, praticien contractuel à l'hôpital de Digne-les-Bains. C'était en fait une petite fille qui avait fait une chute de pas très haut, de la hauteur d'une rambarde, un peu moins d'un mètre. Quoi. Elle était tombée sur le côté droit. C'était le matin quand c'est arrivé, ce que m'avait expliqué le papa. Et puis toute la journée, elle s'était plainte, une petite douleur, et puis les parents voyaient bien qu'elle était un peu fatiguée, c'était des touristes belges. Qu'elle traînait un petit peu la patte en marchant, etc. Puis le soir, elle était vraiment pâle. Et à un moment, elle était plus que pâle et elle commençait à s'endormir toute seule. Ils n'arrivaient plus trop à les réveiller. Donc là, ils ont décidé de se déplacer vers l'hôpital, entre guillemets, de Castellane, qui est en fait une maison médicale, c'est pas un hôpital. Il n'y a pas tous les moyens qui sont disponibles dans un hôpital. On peut prendre en charge une fracture ou des points de suture, mais au-delà, ça devient vite compliqué quand même. Et comme ils ne connaissaient pas trop le coin, ils se sont rendus là où il y avait un médecin le plus près. Bon, quand ils sont arrivés, il y avait une infirmière qui était là, pas de médecin présent. Et la petite fille était pâle comme la mort, d'après ce que m'a dit l'infirmière qui l'a accueillie. L'infirmière a eu le temps de l'installer, de demander un petit peu aux parents ce qui s'était passé. Et puis, la petite fille a fait un arrêt cardiaque. Et donc, l'infirmière s'est retrouvée seule, amassée, a commencé le massage cardiaque. Là-dessus, les pompiers sont arrivés parce qu'elle a appelé le centre 15 dès que la petite fille était arrivée, voyant qu'elle était dans un état dramatique. Et donc, mon chef de service a déclenché le SMUR, c'était moi qui était de garde. Donc, on est parti en voiture, on est pour une heure et demie de voiture. 45 minutes en roulant comme un SMUR. On a une activité héliportée au SAMU 04 qui nous permet de prendre en charge les urgences quand il y a un accident en montagne parce que justement les trajets sont très longs. Mais le problème c'est qu'un hélicoptère ça vole pas tout le temps. Et que donc du coup quand il vole pas, quand les conditions le permettent pas, on est contraint de se déplacer en voiture et qu'un trajet ça se transforme vite. 20 minutes en hélicoptère ça devient vite 45 minutes en voiture. Quoi. Même si on sait que la situation est plus que dramatique, voire dépassée, il faut tenter le coup. Mais c'était une situation qui était complètement désespérée. Donc, comme il n'y avait pas de médecin sur place, il se trouve qu'il y avait une puéricultrice parmi l'équipage de pompiers qui avait travaillé à la Timone, et cette jeune femme s'est proposée de suivre les consignes du médecin régulateur, mon chef de service, pour commencer à mettre en place une perfusion de l'adrénaline, etc., pendant que la réanimation était poursuivie. Et cette équipe qui était sur place, qui a été extrêmement courageuse, a pris en charge, en fait, pendant 45 minutes, la réanimation de la petite fille. Et donc, nous, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait fait une hémorragie interne massive. Et je peux pas m'empêcher de me dire que déjà, cette équipe, ils ont été franchement marqués par cette histoire. Parce que ils se sont retrouvés à faire des gestes médicaux, à prendre des décisions médicales, alors que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre.
Pour lesquelles ils ne sont pas formés.
Pour lesquelles ils ne sont pas censés être formés. Alors il se trouve qu'ils savent faire, mais parce qu'il fallait bien faire quelque chose à ce moment-là. Quoi. Il y aurait eu des choses à faire. Il y aurait eu des choses à faire pour la prendre en charge si elle avait été dans un véritable hôpital. Or, il se trouve que dans cette espèce de zone blanche, que sont certains endroits ruraux en France, ben, il faut bien avoir conscience que les secours sont loin. Quand je suis arrivé, j'ai vu le père qui était à l'entrée, qui était effondré de voir sa petite-fille sans connaissance. Et puis, je me suis rendu avec ma collègue infirmière et mon collègue ambulancier dans la salle où travaillait l'infirmière, la puéricultrice, l'équipe de pompiers. La petite fille était effectivement sur la table d'examen. Et puis, il y avait le scope qui montrait une ligne plate. Hein, le cœur était arrêté. Sauf quand, bien sûr, les pompiers réalisaient le massage cardiaque. Et puis, on a continué ce qu'avait commencé à faire, en fait, la péricultrice. On a administré de l'adrénaline, on a cherché à comprendre ce qui se passait. En faisant une petite prise de sang au bout du doigt, on s'est rendu compte qu'elle avait plus de sang dans le corps. Donc ça évoquait quand même une hémorragie massive, etc. Et puis on a poursuivi la réanimation. On a réalisé une intubation orotrachéale. On a continué à masser, à administrer de l'adrénaline, et puis à un moment, on a été obligé de prendre la décision de s'arrêter, parce que c'était plus raisonnable. Donc après, il a fallu annoncer au papa que sa petite fille était décédée. Quand on a arrêté la réanimation, l'équipe qui était présente, je crois qu'on était tous blêmes. Et puis bien sûr, le père, qui était déjà pas vaillant, il s'est complètement effondré. C'était une situation où c'était très difficile pour lui de ne pas culpabiliser, mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire de... J'ai réalisé le certificat de décès, et puis on a quitté les lieux après avoir laisser les pompiers sur place. On est actuellement dans une situation où de toute façon il n'y a plus assez de médecins. Voilà. Je sais pas, moi je suis allé bosser à Madagascar, je me suis retrouvé dans ce genre de situation. Où on est loin de tout et où il n'y a pas de secours qui peuvent arriver rapidement et où du coup on est dans une situation critique. Je pensais pas y être confronté en France. Voilà. Mais le fait est que s'il se passe quelque chose la nuit à Castellane, ben, les secours y mettent très longtemps à arriver. Quand on appelle l'agence régionale de santé en disant il nous manque un médecin pour telle date, qu'est-ce qu'on fait, ou la direction de l'hôpital, on n'a pas de réponse. J'ai même une nuit, un monsieur qui m'a répondu un soir, ça me concerne pas, à l'agence régionale de santé. Je crois que j'ai raccroché au nez. Parce que c'est des situations qui mettent tellement en colère. Je vois les collègues faire des burn-out. Donc moi, ce que je me dis depuis que j'ai commencé à voir un petit peu collègues s'abîmer, c'est que si j'ai envie de faire ce métier longtemps, il faut que je m'économise si je veux rester. Parce que ça va pas s'arranger.
Je m'appelle Sheila, je suis médecin qui travaille dans les urgences depuis maintenant 8 ans, dans un service d'urgence du 93. J'ai 38 ans, donc ça s'est passé en 2010, j'avais 30 ans. J'étais encore dans l'euphorie de ma thèse, contente, voulant voir beaucoup de malades, fière de ma spécialité, et rien ne me faisait peur. Hein. C'était pendant l'épidémie hivernale, parce qu'en hiver, c'est particulièrement une période extrêmement difficile pour les urgentistes. On sait très bien que à partir de décembre, on va souffrir jusqu'au mois de février. On est déjà en train d'appréhender le mois de novembre qui va arriver. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas avoir plus de moyens, parce que les moyens sont tels quels. On sait très bien qu'on ne va pas avoir d'ouverture de lit, on ne va pas avoir plus de personnel dans les urgences, et on va devoir subir une vague d'épidémie, parce que les malades sont malades, hein. Et beaucoup plus dans le département où je travaille. Dans le 93, quand ils consultent aux urgences, ils sont déjà dans des stades extrêmement avancés. Beaucoup plus, à mon avis, que dans beaucoup de services d'urgences. Nos patients sont en état de précarité, clairement. Ils ne consultent pas, parce qu'il faut avancer les frais. Et nous, dans le 93, on fait des diagnostics de cancer au stade 4. Je savais très bien que la garde allait être difficile parce que j'arrivais à 18h. Il y avait déjà énormément de malades dans les brancards. Beaucoup en attente d'être vus. Donc, j'étais préparée psychologiquement et physiquement à avoir une garde extrêmement compliquée. J'étais équipée, j'étais sûre de moi. Et pour moi, j'étais invincible et rien ne pouvait m'arriver à cette garde. Donc, je prenais tout par philosophie en me disant « Ok, il est 18h, il y en a partout. » Et je savais que la garde commençait, donc il y en a d'autres qui allaient arriver. Et je n'avais pas dit dans l'hôpital. Donc moi, à cette fameuse garde, dans mon service d'urgence, on a 6 postes. Donc le premier poste est occupé, on prend en charge le malade, on le stabilise, le deuxième poste est occupé, et très rapidement, au fil des heures, mon déchocage est plein, et avec des malades qui deviennent de plus en plus instables et de plus en plus compliqués. Ce jour-là, j'étais toute seule, seul médecin, à m'occuper des 6 malades en urgence vitale avec mon infirmière. J'ai pas mangé, et je me suis pas assise, et j'ai pas eu le temps de ne serait-ce 10 minutes discuter avec les infirmières, prendre une pause. Donc arrive 1h du matin, et là je me retrouve avec mon déchocage plein, les malades extrêmement instables et qui nécessitent ma présence H24 et qui nécessitent même de l'assistance respiratoire. Donc je me mets en intubé 1, donc ça veut dire qu'on le met sous coma artificiel et qu'on l'endort. Elle avait une grippe grave. Le deuxième qui fait un état de mal épileptique pour lequel la thérapeutique ne marchait pas, donc qui avait aussi besoin d'une assistance respiratoire. Un autre choc septique qui arrive et je me retrouve avec des malades pratiquement tous sous assistance respiratoire, même pas le temps d'appeler le réanimateur pour qu'il puisse venir m'aider parce que un enchaîne l'autre. Sur le moment même, on a une telle décharge d'adrénaline qu'on ne ressent rien en fait. On est à la tête dans le guidon et on réfléchit malade par malade. Bon, ça y est, celui-là, il est stabilisé, il est sur les rails, tout est bien. Maintenant, celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois m'organiser ? Donc, on vit chaque malade à chaque instant. Donc, on ne prend pas le temps de s'asseoir et se dire « Oula, j'en ai trop, c'est pas possible, c'est pas une situation habituelle, c'est pas gérable. » Et arrivent les pompiers avec un malade. Et là, je me prépare à intuber le sixième malade et je vois le malade des pompiers qui nécessite tout autant mes soins que celui dont je suis en train de m'occuper. Sauf que je n'ai que deux mains, je ne suis pas Shiva. Et là, je me suis dit, et ça a pris 30 secondes dans ma tête, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas arrêter ce que je suis en train de faire parce que j'ai déjà endormi le malade. Je ne peux pas le quitter pour aller m'occuper du malade des pompiers. Et je vois le malade des pompiers qui va faire l'arrêt dans quelques minutes. Et là, je me suis sentie en danger, en fait. Vraiment. Et je voulais pas que le personnel, les infirmières, sentent qu'il y avait un problème. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Quand on a 6 malades instables et qu'on est tout seul, on a peur du pire. Il faut être clair et net. On se dit, j'espère que je vais les tenir les 6 et que je vais en perdre aucun. C'est vraiment ce qu'on se dit. Et en fait, mon collègue terminait à minuit. Et là, il était 23h30, et passait juste pour... Il déposait un malade en réa, et passait pour me faire un petit coucou. Et je pense qu'il a dû voir la détresse dans mes yeux, mais vraiment, parce que je pense que mes yeux ont dû exprimer quelque chose. Et il m'a regardé, il m'a dit, Sheila, ne t'inquiète pas, on s'occupe du malade. Donc pendant que moi j'intubais tranquillement mon malade, mon collègue était en train d'intuber le sien, enfin le malade des pompiers, sur le brancard des pompiers, pris en charge et emmené dans une autre réanimation. Et je sais très bien que le lendemain matin, quand la garde est finie, bon après il y a l'adrénaline qui tombe, et là on se rend compte de ce qu'on a vécu, parce que sur le moment même, on ne s'en rend pas compte. Il y a quand même un truc qui m'a fait tiqueter, c'est que le réanimateur, quand il est descendu pour prendre les malades, il m'a regardé, il me fait « Mais tu as plus de malades intubés, c'est-à-dire en coma artificiel, que moi en réanimation, qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment t'as fait pour gérer tout ça ?» Et donc le matin, on était tous fatigués, je m'en rappellerai toujours, avec les infirmières. Elles m'ont regardé, elles m'ont fait « Mais Sheila, tu te rends compte de la garde qu'on a passée ?» Et moi, sur le moment même, quand elles me l'ont dit, non, pour moi, c'était une... comme je débutais, je pensais naïvement que c'était le quotidien de l'urgentiste. Et c'est mes collègues anciens qui ont beaucoup plus de bouteilles et d'années d'expérience quand ils ont su la garde que j'ai passée. Ils sont partis voir mon chef de service en leur disant « Moi, si j'avais vécu la garde que Sheila avait vécue, je t'aurais déposé ma démission sur ton bureau. » C'était extrêmement gratifiant parce que les réanimateurs savaient que la nuit avait été très difficile pour moi. Donc eux-mêmes m'ont appelé pour me dire « Tu sais, ton malade, il va bien, il avait ça, ça et ça. » C'est on se dit « Bon, ça va, j'ai assuré. » Slim frame, your eager eyes and your wild mane. Oh, they keep me where I belong. All wrapped up in wrong.
Histoire en urgence, c'était un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Clémence Gross. Merci à Sheila Gazmi, à Mathieu Hédet, à Hugues Breton, à Patrick Pelot, à Christophe Prudhomme et à Marine Monnier. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Camille Richir, c'est notre stagiaire.